le troisième samedi du mois, vous écoutez votre émission Galaxy Basket sur le 98.5 FM. Les résultats des clubs, l'actualité du basket occitan, c'est tout de suite avec Pierre.
Passionnés de basket, bienvenue sur Radio Galaxy, la radio du sud toulousain. C'est le troisième samedi du mois, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans mon émission Galaxy Basket, programme chargé puisque j'ai l'occasion de partager avec vous mes rencontres passionnantes ce mois-ci. Retour sur la finale de la Coupe de la Garonne féminine où Cécile Nicolas nous raconte comment elle a vécu sa finale et son titre de MVP ce jour-là. Actualité importante au niveau du basket local puisque le comité 31 de basket organise avec les clubs de Muret, Tournefeuille et Lonagué la fête nationale du mini-basket les 27, 28 et 29 mai prochains. On aura l'occasion d'y revenir. Enfin, vous aurez l'occasion d'écouter l'interview que m'a accordé Yann Julien, entraîneur de l'équipe de France féminine 3-3, championne du monde et d'Europe en titre avec lequel on aborde la prochaine Coupe du Monde, Paris 2024 et son regard sur le basket féminin. Galaxy Basket, ça commence tout de suite après ça. Cécile Nicolas, joueuse de l'équipe 1 de Salis du Salat, 19 ans, étudiante en kinésithérapie, meneuse ou arrière donc au sein de l'équipe féminine de Salis du Salat. Elle a participé à la dernière finale de la Coupe de la Garonne le 8 avril dernier. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques instants. Cécile, tu as été élue sur cette finale MVP, donc joueuse du match. Comment on reçoit ce genre de trophée en tant que joueuse de basket?
Ouais, c'est gratifiant, bien sûr, de gagner un trophée individuel. Mais à la base, je n'étais pas venue pour ça, entre guillemets. C'est la victoire collective qui me satisfait au-delà du trophée individuel, qui est super en tout cas. Après, est-ce que je m'y attendais? Non, pas spécialement. En tout cas, je n'étais pas venue pour ça, donc je ne m'étais pas mis de pression en tout cas pour ça.
Tu as 19 ans, tu es une jeune joueuse. Comment est-ce qu'il y a une petite anecdote que tu peux nous raconter sur la préparation de cette finale, puisque tu fais partie de l'équipe 1, tu étais en renfort sur cette finale de la Coupe de la Garonne. Comment on aborde ce genre d'événement, et notamment au Petit Palais des Sports?
Ah, c'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on joue au Petit Palais des Sports de Toulouse, donc quand ça arrive, on essaie de profiter au maximum. Après, comment on l'a travaillé, on a essayé d'être très concentré à chaque entraînement et on a essayé de travailler sur nos points forts pour mettre à mal la défense adverse, et on a gagné, donc on a bien réussi en tout cas à bien travailler pour ce match au Petit Palais.
C'est vrai, on en parlait avec votre entraîneur et on avait lu aussi dans la presse que Cornebarieux était plutôt favori sur cet événement. Est-ce que ça, il y a eu aussi des éléments qui ont fait que on se serre un peu plus les coudes en tant qu'équipe et on se dit on va déjouer les pronostics?
Oui, tout à fait, puisque Cornebarieux est en poule haute, tandis que nous on est en poule basse, donc poule pour le maintien. Mais c'est vrai que ça a mis un peu de piment et on donne tout en tout cas pour essayer de faire déjouer l'adversaire et de créer la surprise, bien sûr.
Retour au championnat après cette finale et ce premier titre dans la saison. Vous avez encore un mince espoir de jouer la montée en National 3 avec l'équipe 1. Quelles sont les échéances à venir et comment tu vas les préparer? Comment vous allez les préparer au niveau de l'équipe 1?
Il nous reste deux matchs du coup pour cette fin de saison. Et moi personnellement, je fonctionne match par match et essayer de tout donner à chaque match pour les remporter. Et ensuite, on verra les calculs et on verra si on peut espérer monter ou pas. Mais c'est vrai qu'à chaque entraînement, on essaiera de jouer au maximum et de se la donner pour essayer de garder un mince espoir et pour la monter, bien sûr.
Passionné de basket, on continue notre émission Galaxy Basket sur Radio Galaxy, la radio du sud toulousain. J'ai le plaisir d'être avec Karine Rébuffo, responsable pédagogique du mini-basket au club de Muret. Bonjour Karine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur les ondes du 98.5 FM. On parle aujourd'hui de la fête nationale du mini-basket organisée sur tout le territoire le 27, 28 et 29 mai prochain. Le club de Muret va être partie prenante sur ce week-end-là puisque vous allez animer et organiser le plateau mini-basket U11 le dimanche 28 mai. Avant de rentrer dans ce vif du sujet, Karine, est-ce que tu peux nous présenter l'école du mini-basket à Muret?
Oui, bien sûr. Alors, notre école mini-basket à Muret est composée à peu près de 70 jeunes qui sont répartis sur les catégories U7, U9 et U11. Notre école mini-basket, elle est labellisée. On a un label fédéral École française de mini-basket depuis quelques années déjà. Donc, le travail principal, c'est la formation du jeune joueur, mais aussi la formation du jeune cadre, c'est-à-dire un jeune joueur qui a envie également d'encadrer les petits. On est là pour les former aussi. Et la nouveauté cette année, c'est on a eu un nouveau label qu'on appelle le label micro-basket. Ce label-là nous permet en plus d'encadrer les enfants à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à à peu près 5 ans. Voilà, ça, c'est un petit peu la nouveauté sur notre école de basket à Muret.
Alors, un club de basket et une école de basket qui vit bien, qui fonctionne bien, et on le disait en introduction de cette interview, vous allez organiser le dimanche 28 la fête nationale du mini-basket pour la catégorie U11. Karine, comment on organise ou comment on co-organise cet événement sur la ville de Muret?
Alors, déjà, en effet, on le co-organise avec le comité départemental de la Haute-Garonne de basket. Nous, on est à la ville de Muret, on va accueillir en effet cet événement sur la catégorie U11 garçons et filles. Donc tous les clubs du département de Garonne sont conviés ce dimanche 28 mai pour participer à ce tournoi là sur la ville de Muret. Alors comment on l'organise? Bon, c'est vrai que c'est une grosse manifestation qui va à peu près accueillir plus de 450 jeunes sur ce dimanche. Donc c'est vrai qu'on fait appel aux bénévoles de l'association. D'abord les parents de la catégorie U11, mais aussi d'ailleurs des gens qui ont envie d'aider la structure, hein, l'avenir du Muretien Basketball. Donc comment on fonctionne? Avec une fiche bénévole qu'on envoie aux parents qui nous retournent, et on met en place en fait le samedi 27 à l'après-midi tout ce qu'il y a à mettre en place un petit peu, c'est-à-dire tout ce qui est buvette, tout ce qui est terrain de basket et tout. Alors après, on est aussi sur la ville du Muret, on a un gros avantage, c'est qu'on est aidé aussi par la commune sur l'aspect logistique. Donc ça, c'est quelque chose qui nous soulage beaucoup, notamment sur la mise à disposition de tables, de chaises, de chalets et même de podiums. Donc ça, c'est très positif pour nous. Après, bon, mais c'est aussi les jeunes du club à partir des U15, du 17 qui viennent aussi aider le samedi, qui sont aussi présents pour la vente le dimanche. Après, on fait également appel à nos partenaires qui sont là tout le long de la saison aussi, et on les met en avant aussi sur cet événement-là, en leur proposant des stands de venir à un stand pour présenter leur propre société le jour de l'événement. Quoi. Voilà. Donc après, on est aussi en discussion énormément avec Mathieu Couillat, qui est le responsable du comité départemental au niveau des jeunes. Donc on travaille ensemble après sur le côté sportif un petit peu et sur cet événement-là.
Tu le disais, Karine, une multitude de partenaires pour organiser un événement comme celui-là sur la ville de Muret. Au niveau sportif, qu'est-ce qui est prévu sur la journée du 28 mai?
Alors sur le 28 mai, sportivement, en fait, on va mettre en place à peu près une dizaine de terrains intérieurs et extérieurs. Et donc à partir du matin, à peu près 9h30 jusqu'à à peu près 16h30, 17h, donc il y aura des oppositions en 4-4 qui seront prévues par des petits coups de 6 à 8 équipes sur chacun des terrains. Et donc les enfants vont s'amuser toute la journée. Bon, bien sûr, ça reste une fête, hein, donc il n'y aura pas bien sûr de classement, hein, sur ces tournois-là. Mais voilà, le but, c'est que les enfants prennent du plaisir, jouent un maximum de matchs sur la journée du dimanche et partagent des moments agréables, parce qu'à côté, nous avons aussi des petites animations. Donc on a aussi on a ce qui est photomaton, on a un petit jeu qu'on appelle tout ball où les parents peuvent participer aussi avec les enfants. On a aussi souvent des stands sur tout ce qui est éco-citoyen, gestes éco-citoyens. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui plaît au niveau des jeunes, quoi. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment qu'ils prennent du plaisir par rapport à l'activité, leur sport qu'ils aiment beaucoup dans le basket, mais aussi par les activités extra-basket qu'on met en place à côté.
Karine Rébuffo, responsable pédagogique du mini-basket au club de Muret. Merci pour ta participation à l'émission Galaxy Basket.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Pour cette émission du mois de mai, j'ai le plaisir de recevoir Yann Julien, responsable du haut niveau 3-3 à la Fédération Française de Basketball et entraîneur de l'équipe de France féminine de basket 3-3. Bonjour Yann.
Bonjour Pierre.
Merci d'être avec nous et de nous accorder un petit peu de temps sur Radio Galaxy. Alors avant de débuter ton interview, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours dans le monde du basket et de ton arrivée à la Fédération Française de Basketball en 2016.
Alors, moi, mon arrivée dans 3-3, elle s'est faite un peu par hasard. Alors, c'est toujours surprenant quand je dis ça, mais j'ai un parcours assez classique, on va dire, de basketteur dans le 5-5. Très jeune, j'ai commencé effectivement à entraîner du 5-5, à peu près sur toutes les catégories, garçon-fille, jeune jusqu'au senior. Je suis passé par le club professionnel de Saint-Vallier, puis après j'ai rejoint une ligue régionale pour pouvoir entraîner un pôle espoir. Et en même temps que j'entraînais le pôle espoir, j'ai commencé à être assistant sur les équipes de France jeunes féminines. Et puis un été, on me passe un petit coup de fil en disant « Yann, écoute, bon, tu connais peut-être pas le 3-3, mais on est embêté sur un staff technique, il nous faut quelqu'un pour pouvoir faire la vidéo. On a pensé à toi, c'est la Coupe du Monde U18 féminine au Kazakhstan, est-ce que t'es chaud ?» Et voilà comment mon histoire avec le 3-3 a démarré. J'ai pris le train, j'ai appris littéralement les règles du 3-3 dans le train, parce que sincèrement je ne connaissais pas, j'en avais vaguement entendu parler. Voilà, j'ai débarqué en stage, j'ai commencé à faire la vidéo, et puis on a eu un alignement des planètes extraordinaire avec des joueuses qui à l'époque n'étaient pas des joueuses vraiment référencées, mais qui avaient un cœur énorme que personne n'attendait. Et puis bah, ces filles-là battent Team USA en finale et elles sont championnes du monde. Et puis voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et j'ai été complètement happé, je suis tombé amoureux du 3-3. Et puis finalement bah, j'ai passé sans jamais vraiment le chercher, mais simplement parce que bah, effectivement j'aimais ça et puis les opportunités sont présentées, assistant en U18, assistant après sur les moins de 23 ans, coach sur les moins de 23 ans, puis je faisais aussi la vidéo pour les seniors. Et en novembre 2021, ouais c'est ça, donc c'était après les Jeux de Tokyo, on me propose de prendre la suite de mon collègue Richard Billan qui partait à la retraite pour devenir coach des seniors féminines et de prendre la responsabilité aussi du haut niveau à la fédération du 3-3, c'est-à-dire la coordination des équipes de France jeunes en particulier. Et puis voilà comment je me suis retrouvé effectivement à ce poste-là. Donc depuis 2016 dans le 3-3 et depuis novembre 2021 en tant que coach de l'équipe de France féminine.
Alors Yann, le 3-3 c'est une nouvelle discipline olympique depuis Tokyo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des règles spécifiques de ce sport-là et de cette discipline-là ?
Alors ouais, c'est une question qui est intéressante parce que ça reste du basket. On est dans le même sport. Mais nous, on a tendance à dire que ce sont deux disciplines bien différentes. Et notamment à cause de ces spécificités, on joue que sur un seul panier. Il y a effectivement trois joueuses sur le terrain et une seule remplaçante. Ça se joue en 10 minutes, le match. 21 points, ça veut dire que si jamais on atteint les 21 points avant la fin des 10 minutes, le match est terminé. Donc ça donne un côté un peu suspense. C'est très très intense comme discipline et ça se joue sous le format de tournoi. C'est-à-dire que vous allez enchaîner dans la journée deux ou trois matchs et votre tournoi va se dérouler sur un, deux ou trois jours, ou même un petit peu plus quand on est dans le cadre d'une Coupe du Monde, par exemple. Mais c'est un petit peu ce format-là. Et la dernière chose qui est un peu spécifique aussi, c'est que le calcul des points est différent du basket à 5. Quand vous marquez un panier classique, hein, un lay-up, quand vous allez au cercle, ça ne vaut que un point. Par contre, derrière l'arc, donc derrière la ligne à trois points dans le 5-5, et ben nous, ça compte 2 points. Et c'est hyper intéressant parce que ça équilibre un petit peu bah, les attaques vers le cercle et puis l'adresse à mi-distance et ça rajoute effectivement un côté collectif au 3-3. Et parfois on fait un petit peu un raccourci un peu rapide en se disant bah tiens, le 3-3 c'est du playground donc ça va jouer que des 1 contre 1. Ça c'est faux. Si vous jouez que des 1 contre 1 et que vous jouez perso au 3-3, ben vous allez vous griller très vite être fatigué, avoir peu de rentabilité et vous irez pas très loin. Donc le 3-3, c'est d'abord un sport collectif où il faut être très fort en équipe pour pouvoir performer. Voilà un petit peu pour les spécificités qu'on pourrait citer sur le 3-3.
Au niveau de ta carrière d'entraîneur, tu es un vrai ambassadeur, si je peux dire ça comme ça, du sport féminin, en l'occurrence au niveau du basket. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les particularités du basket féminin français et peut-être plus généralement du sport féminin ?
Alors, cette question, elle est intéressante parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent. Mais je suis toujours un peu gêné parce que du coup en fait on pointe du doigt une espèce de spécificité qui n'existe pour moi pas vraiment. On parle du basket féminin comme si c'était un autre basket. Je pense pas. Moi je pense qu'il y a que un seul basket, il y a que un seul basket à 5. Mais avec autant de différences qu'il peut y avoir entre les équipes, et c'est pas une histoire de différence qu'il va y avoir entre les hommes et les femmes. C'est une histoire de différence. Il y a cette équipe-là qui joue de cette manière-là. Il y a une autre équipe qui joue d'une autre manière. Et toutes ces différences-là, toute cette richesse-là, on la retrouve à la fois chez les hommes et chez les femmes. Donc, il n'y a pas réellement de basket féminin. Et ça se retrouve complètement dans le basket à 3. Oui, on peut dire qu'il y a une différence athlétique aujourd'hui, mais elle tend à se réduire, on va dire, entre les hommes et les femmes. Hein. C'est de la physiologie. Là-dessus, on est OK. Mais après, dans le basket pratiqué, dans la façon de pouvoir conduire un groupe, ça, j'y crois pas, sauf si on crée les conditions de ça. Ça veut dire qu'on arrive avec notre a priori et puis on le pense tellement fort en tant que coach que finalement, on impose cette pensée-là sans vraiment le vouloir. Hein. Attention, hein. C'est de façon à le faire, mais on impose cette volonté-là effectivement après au groupe et le groupe finit par se plier à ça.
Tu es quand même à la tête d'une équipe qui est championne du monde et championne d'Europe en titre et du 30 mai au 4 juin, vous allez participer à la Coupe du Monde 3-3 à Vienne. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vas préparer cet événement et quels seront les axes de travail ?
Alors, cette préparation à la Coupe du Monde, elle va pas être simple. On a des objectifs qui sont très élevés. Hein. Une fois que vous avez été champion du monde, la seule chose que vous voulez derrière, c'est de l'être à nouveau. Par contre, on va être un peu compressé dans le temps parce que la particularité, c'est que moi, je récupère des joueuses professionnelles de 5-5 qui sont pour la grande majorité encore en course, soit en play-down en Ligue féminine, soit encore en demi-finale de la Ligue féminine. Et pour autant, la Coupe du Monde va arriver très très vite. Donc, il va falloir qu'à la fois, on puisse gérer un peu la fraîcheur physique et mentale des filles qu'on va récupérer dès qu'elles vont sortir de leur saison de Ligue féminine. Donc il faut créer un sas de récupération pour ces joueuses-là. Et à la fois, il va falloir quand même arriver à bosser. Et l'enjeu, il va être là, c'est de trouver ce bon équilibre entre préserver un peu les organismes, les faire récupérer à la fois physiquement, à la fois mentalement, et à la fois arriver à mettre la bonne dose de travail en vraiment spécifiant certaines priorités de façon à être prêt à la Coupe du Monde. Et puis il y a une autre chose qui est hyper importante dans un tournoi comme la Coupe du Monde, qui est un tournoi qui a un format un peu particulier parce qu'il est un peu long, on a 6 jours de compétition, c'est qu'il faut avoir à l'esprit, à l'idée de se dire qu'on va essayer de grandir match après match. De façon à avoir ce pic de performance, et ben, j'espère, en finale. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, il faut à la fois se dire, OK, on arrive en Coupe du Monde. Bon, si tous les matchs ne sont pas parfaits en poule, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'arriver à faire un pas en avant après chaque match de façon à progresser. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important si on veut arriver à performer.
Est-ce qu'au niveau des adversaires que vous allez rencontrer dans la poule A, on a la même réflexion ? Est-ce que tu peux nous présenter, du coup, ces 4 adversaires que sont, on l'a dit tout à l'heure, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Autriche et le Brésil ? Il y a des équipes que vous allez retrouver par rapport aux compétitions que vous avez faites précédemment ?
Alors, on a du mal à toujours savoir exactement comment les autres pays se préparent. Aujourd'hui, on n'a pas l'exposition médiatique que peut avoir le 5-5. Donc, savoir comment les autres se préparent, on arrive à avoir quelques infos, mais c'est pas toujours extrêmement clair. Par contre, c'est des adversaires que on connaît bien. On sait qu'effectivement, le Brésil, ça va être une équipe qui va être très physique. Qui met effectivement beaucoup l'accent sur le côté athlétique, avec une vraie force d'impact pour pouvoir essayer d'amener la balle proche du cercle, pour être présent avec le rebond offensif. L'Autriche, c'est souvent une nation qui est un peu sous-estimée, Parce que les premières réflexions qu'on a, c'est des réflexions au regard du 5-5. Et c'est vrai que dans le 5-5, l'Autriche, on n'entend pas trop parler. Par contre, c'est une nation qui s'investit beaucoup dans le 3-3. Elles ont quelques joueuses qui jouent principalement en Allemagne, qui sont des bonnes joueuses. Et aujourd'hui, ce sont des joueuses qui se sont bien spécialisées dans le 3-3. Donc, c'est un adversaire qu'il faut surtout ne pas sous-estimer. Et après, bah, on a les deux grosses équipes, j'ai envie de dire, de la poule, que sont l'Espagne, parce que bah, l'Espagne, ça reste une nation avant tout de basket. Elles ont été championnes d'Europe, et je le sais au combien, en France en 2021. Et puis, on a les Pays-Bas qu'on a retrouvés l'été dernier en finale de la Coupe d'Europe, et qui est aussi une nation qui s'investit énormément dans le 3-3. Et c'est assez logique, parce que ces nations-là, elles savent que c'est plus compliqué, effectivement, de pouvoir exister au plus haut niveau en 5-5, parce qu'il faut un réservoir de joueuses important, alors que dans le 3-3, avec un réservoir de joueuses un peu moins important, mais très vite, vous pouvez performer si vous investissez un peu cette discipline. Et donc, effectivement, l'Espagne et les Pays-Bas seront les deux gros morceaux de la poule. Et pour rappel, le premier se qualifie directement pour les quarts de finale, et le deuxième et troisième de la poule, eux, se qualifient pour les huitièmes. Et forcément, nous, on aimerait pouvoir sortir de cette poule-là à la place la plus haute, et si on peut essayer d'avoir la première place pour pouvoir s'économiser un match, Eh ben, ce serait le bienvenu.
Yann, vous avez une année 2023 et un été particulièrement chargé, à un tout petit peu plus d'un an de Paris 2024. Est-ce qu'on a déjà cet événement dans la tête ?
Oui. Les Jeux, on y pense tous les jours. Après, il faut bien construire ce chemin qui doit nous mener jusqu'aux Jeux, dans le sens où on peut pas penser au jeu si on pense pas à toutes les étapes qu'il y a avant. Et ce qui doit nous propulser vers les jeux, c'est un chemin qui va être tortueux, qui va être ardu, dans lequel des fois il va falloir réorienter notre piste pour pouvoir trouver le raccourci le meilleur. Et ça va passer par les compétitions de cet été. D'abord par une Coupe du Monde, après par les Jeux Européens, puis par la Women Series, et enfin par la Coupe d'Europe, qui sont les quatre grandes compétitions de cet été. Et je pense que l'enjeu, c'est de renforcer cet apprentissage de la gagne. Et ça passe par les compétitions de cet été. C'est fondamental. C'est fondamental aussi d'avoir un groupe qui reste un groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, homogène, mais suffisamment large, parce qu'on fait pas un été à quatre joueuses. Aujourd'hui, on a tellement de tournois, et on a cette spécificité d'avoir des joueuses qui viennent du 5-5, qui ont déjà une saison dans les pattes, et qu'il faut faire passer en 3-3. Mon groupe France, aujourd'hui, il y a une douzaine de joueuses, et même plus. Et on va avoir besoin de ces 12 joueuses-là pour pouvoir traverser, apprendre, progresser, se développer tout au long de l'été.
Yann, Julien, ce sera ma dernière question. Quel regard tu portes, toi, en tant qu'entraîneur au niveau de la Fédération française de basketball, sur l'ensemble des équipes de France 5-5 et 3-3 féminin et masculin ?
Sincèrement, moi, je pense qu'on vit une époque incroyable. Faut pas oublier qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, le basket français sur la carte internationale, il n'existait quasiment pas. Et aujourd'hui, on est dans une période où on a des filles qui sont médailles de bronze aux Jeux de Tokyo. On a des garçons qui sont médailles d'argent aux Jeux de Tokyo. On a des garçons qui sont médailles de bronze à la Coupe du Monde de 3-3. Et on a des filles qui sont championnes du monde de 3-3. Est-ce qu'on peut faire plus ? Ouais, je pense qu'on peut faire encore un petit peu plus. Et on peut passer encore cette étape-là pour être sur la première marche du basket mondial. Alors des fois on dit, mais allez, calmez-vous, il y a des Américains, mais les Américains, on peut les battre aussi. On peut les battre. Je pense que la bande à coller l'a démontré. Et il faut qu'on ait cette ambition-là pour pouvoir avancer encore et avoir encore des histoires encore plus folles à raconter dans le basket. Et dans le basket jeune, aujourd'hui, 5-5 et 3-3, c'est extraordinaire aussi ce qu'on vit. Et ça, il faut pas qu'on oublie tout ce travail phénoménal. Je pense que des fois, on a un peu dans cet état d'esprit français, on est dans cette autocritique où on se tape un peu dessus, où on tape sur le voisin. Mais les clubs, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait il y a 20, 25 ou 30 ans. Donc les clubs, ils ont fait un énorme pas en avant, et à tous les niveaux, du petit club amateur jusqu'au club pro, faut pas l'oublier. Et les structures fédérales se sont renforcées. Les pôles espoirs se sont renforcés, les équipes de France jeunes se sont renforcées, autant en 5-5 qu'en 3-3. Et il n'y a pas beaucoup de fédérations qui investissent autant dans ce parcours de formation, parce que c'est ça qui nous permet, à la fin, d'avoir des équipes de France performantes en 5-5 et en 3-3. Et j'insiste sur le 3-3 parce qu'il n'y a pas beaucoup aussi de fédérations qui s'investissent autant sur cette discipline-là. Et on le fait parce qu'aujourd'hui, on pense que on a une opportunité de dingue avec les Jeux, mais ça s'est construit grâce aux 20 dernières années et toutes les avancées qui ont eu grâce à ces 20 dernières années.
Écoute, le rendez-vous est déjà donné alors en mai 2023 pour juillet 2024. Yann Julien, entraîneur de l'équipe de France féminine de basket 3-3, un grand merci pour ta participation dans Galaxy Basket sur Radio Galaxy, la radio du Sud Toulousain. Toute l'équipe te souhaite, à toi et à ton équipe, une très bonne Coupe du Monde fin mai.
Merci beaucoup, à très vite.
Galaxy Basket, c'est terminé sur le 98.5 FM Radio Galaxy. La radio du Sud Toulousain vous souhaite un excellent week-end. Pour les retardataires, pas d'inquiétude puisque vous retrouverez l'émission Galaxy Basket de ce mois de mai sur le site internet de la radio, radiogalaxy31.com. Ne manquez surtout pas la dernière émission de la saison le mois prochain. On sera en plateau exceptionnel sur les finales départementales le samedi 3 juin prochain. Je vous dis à très bientôt sur Radio Galaxy. Around the world, y'all know this is so dead.
It's gonna be a beautiful day of basketball here today, fellas. We're not talking about just regular basketball. We are talking about street ball.
Street ball
will be played today, and coming into the court right now, man, Bow Wow and his teammates
right now.
Bob, yeah. What's up, man?
Hey.
All right now.
He'll wave at us later.
Basketball is my favorite sport. I like the way they dribble up and down the court. I keep it so fresh on the microphone. I like no interruption when the game is on. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go.
Oh, geez. Beautiful dunk.
In my hands, ain't no telling what I'm gonna do with it. When I got possession, I'ma act a fool with it. I might cross you up and fake one way. Turn around and hit you with the MJ fadeaway. I'm throwing dime passes like J Kid, taking cats to the rack, and I'm dunking on them right. See Mac when I'm in the plane, I play with that Lonzo style. I'm like Darius, cause I can
don't too many players get offers like me. Back and forth are likely. Shake the checks off your Nikes. They almost had me in a suit at the draft, cause it looked like a free throw when I be shooting from half. The first step like Iverson, blow past you. Usually nothing but net, but I could go blast too. When I'm in the paint, the defense so shook, they don't know if I'ma put up a slow hook or dish off a no look. See, my game consists of a whole lot of moves you would think I learned from the Harlem Globetrotters. JD gon' lead us to a ring. Fab and Bow Wow's the only players that make cheerleaders wanna sing. Yeah, put it up now.
Join the night MJ scored 63 points when the Lakers won titles back to back. Didn't give nobody no kind of slack. When Vince Carter came, stuck his arm in the rim, everybody went crazy in the whole damn gym. Dikembe Mutombo standing tall, playing D with desire. It's basketball, sing.
That's so nice, we gotta play that.
Take it down, Cap.
Now let me show you what's going on right here, man. See, that's not a finger roll, that's what you call it. Finger roll! You gotta sing it like that, man. My daddy told me that before he left the family.